J'espère que vos discussions ont été intéressantes. Et, donc, dans quelques instants, Joe va nous apporter notre message d'aujourd'hui et Anne va lire le passage. Mais juste avant ça, permettez-moi d'expliquer un peu ce que nous faisons ici en tant que communauté francophone. Nous avons deux buts. Notre premier but, c'est de parler de Jésus et de célébrer la bonne nouvelle de Jésus, la vie éternelle qu'il nous offre. Et nous découvrons ça dans la Bible. Donc, nous voulons écouter à ce que dit Dieu dans la Bible. Donc, c'est pour ça que nous nous réunissons une fois par mois ici à St. Andrews pour entendre la voix de Dieu et de discuter de ça ensemble. Mais notre deuxième but, c'est de partager cette bonne nouvelle à nos amis, à nos collègues. Donc, que vous soyez juste en visite ou que vous habitez à Londres depuis longtemps, on est très content de vous voir et j'espère que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez discuter de ce que nous entendons de la Bible et peut-être que vous découvrez cette offre de la vie éternelle que Jésus nous offre. Donc, avant que Anel nous lit le passage, je propose qu'on prie ensemble. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci que tu nous donnes cette opportunité de se réunir pour apprendre de toi et pour entendre ta voix dans la Bible. Et nous te remercions que Jésus est venu proposer une issue de secours à des gens en danger mortel. Aide-nous, s'il te plaît, à être humbles devant ta parole, afin que nous puissions comprendre ces réalités importantes. Et nous te prions ça au nom de Jésus. Amen. Anel.
Donc, nous lisons dans Jean 3, page 688. Donc, Jean 3, 16. 16 au verset 36, page 688. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne son esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen.
Merci beaucoup, Annelle. J'aimerais m'associer à l'accueil que vous a souhaité Will à l'instant. Surtout si vous êtes là pour la première fois ou bien si vous êtes là en visite, bienvenue à Londres, bienvenue en Angleterre. C'est là le meilleur repas que vous allez manger au cours de votre séjour parce que fait par des Français. Dans mon expérience, personne n'aime être mis à nu. Quand j'avais 4 ans, juste avant Noël, mes parents étaient dans la cuisine lorsque tout à coup, ils entendent un crack. Ils courent dans le salon et là, ils voient le sapin de Noël par terre. Mon petit frère avec du chocolat autour de la bouche, à ses pieds, les papiers des décorations en chocolat qui étaient pendus au sapin. Et pris en flagrant délit de vol de décorations de Noël en chocolat, mon frère Bill annonce sa phrase immortelle. Le sapin a sauté de son pot. Personne n'aime être mis à nu. D'ailleurs, c'est d'actualité. Si vous avez suivi les révélations ces dernières semaines dans le cadre des Panama Papers, cette enquête qui a révélé les comptes offshore d'un grand nombre de politiques et de sportifs. Je me demande si vous avez remarqué quel a été le premier réflexe des personnes citées. Eh bien, souvent, soit de supprimer l'information, soit de chercher à relativiser la gravité des révélations. Parce que personne n'aime être mis à nu. Même quand c'est dans notre intérêt d'accepter la vérité. Pensez aux critiques d'un chef au travail qui font mal tout en visant à nous aider à faire mieux, ou le diagnostic d'un médecin qui constate qu'il y a un problème et qu'il faut agir, mais on n'a pas envie d'écouter. Si vous êtes comme moi, le premier réflexe, c'est souvent de relativiser plutôt que d'écouter. On n'aime pas être mis à nu. On n'aime pas entendre des vérités difficiles sur nous-mêmes. Même quand c'est dans notre intérêt d'accepter ces vérités. Dans le passage de l'évangile de Jean sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, c'est Jésus qui vient exposer des vérités difficiles. Des vérités qu'instinctivement nous allons vouloir rejeter ou relativiser, même si c'est dans notre intérêt de les accepter. Même si Jésus vient révéler ces choses parce qu'il nous aime et parce qu'il nous propose une solution. Notre objectif aujourd'hui est de méditer sur certaines de ces vérités. Et nous allons voir que, par défaut, tout être humain se tient coupable devant Dieu. Parce que tout être humain a rejeté son Créateur. Et tout être humain est donc sous sa condamnation. Et la preuve, c'est que quand ce Dieu vient à notre rencontre, notre réflexe naturel, c'est de le repousser. Lui tourner le dos, boucher nos oreilles à ce qu'il a à nous dire. Mais à ceux qui sont prêts à l'écouter pourtant, il propose une issue de secours. Et cette issue de secours, c'est Jésus-Christ. Mon premier point donc, tous condamnés. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un studio télé. Une des premières choses qui marque quand on se balade dans un studio télé, c'est la quantité de maquillage apporté par les présentateurs. C'est assez impressionnant. On a l'impression qu'ils doivent avoir mal au cou, tellement les couches de maquillage sont épaisses.
La vraie raison pour laquelle ils portent autant de maquillage, c'est parce que les lumières sur les plateaux de télé sont tellement puissantes qu'elles exposent absolument tout. Les moindres rides, cernes, boutons, tout, absolument tout, se voit sous ces lumières. Maintenant, je vous propose de lire le verset 19 de notre passage. Ici, Jean, l'auteur de ce livre, nous parle de comment l'humanité réagit naturellement lorsqu'elle se retrouve face à face avec le Fils de Dieu. Verset 19. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Nous parcourons l'évangile de Jean depuis le début de l'année et nous avons médité ensemble sur une affirmation énorme. Dieu, le créateur de l'univers, est devenu un homme en chair et en os. Un homme qu'on peut connaître, Jésus. En Jésus, Dieu s'est mis à notre portée. De quelle manière pensons-nous que les gens réagissent lorsque Dieu vient à leur rencontre alors? Eh bien, nous avons vu qu'au début, l'accueil est plutôt chaleureux. Jésus attire les foules. Il est invité, par exemple, à un mariage. Tout le monde veut le rencontrer. Mais à mesure que nous avançons dans l'évangile de Jean, nous voyons que les choses se dégradent. Parce que nous découvrons que Jésus est comme ces lumières sur les plateaux télé. Il expose tout, notre vrai visage. Des choses que nous aimerions peut-être cacher. Et cela nous met mal à l'aise. Un peu comme le présentateur qui découvre sous les lumières du plateau que ses rides sont bien plus marquées qu'il ne le pensait, face à Jésus, nous découvrons que nous avons un problème. Car Jésus met en lumière l'état de nos cœurs. Il n'expose pas seulement nos actes, mais aussi nos allégeances. Pas simplement nos paroles, mais nos pensées et nos priorités. Il révèle au grand jour comment nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, adopté le vieux slogan anarchiste, « Ni Dieu, ni maître ». Le problème est plus grave que le fait d'avoir violé quelques règles. Le vrai problème, c'est que nous avons voulu créer les règles nous-mêmes. L'humanité tout entière a rejeté son Créateur. C'est Jésus qui le révèle. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et le grand paradoxe, c'est que quand Jésus vient exposer notre rébellion, notre réponse ne fait que confirmer son verdict. Il met en lumière notre rejet et donc nous le rejetons. Imaginons que vous ayez un fils. Vous organisez un voyage pour lui à l'étranger. Il va loger chez une famille d'accueil. Vous prenez contact avec la famille en avance pour demander qu'il vienne le chercher à l'aéroport. Mais au moment où votre fils arrive à l'aéroport, ils ne sont pas là. Il a l'adresse, donc il prend un train, il arrive chez la famille, mais quand il frappe à la porte, on lui dit qu'il n'est pas le bienvenu. Qu'est-ce que ça dit sur l'attitude de la famille vis-à-vis de vous qui avez envoyé votre fils chez eux? Clairement, ils n'ont aucun respect pour vous. Ils vous rejettent. Rejeter votre fils, c'est vous rejeter. Et c'est la même chose avec Jésus. Le rejeter, c'est rejeter Dieu. L'offenser, c'est offenser Dieu. Lui être indifférent, c'est être indifférent à Dieu. Et c'est justement là ce que tout le monde a fait. Nous avons été pris en flagrant délit, en train de dire à Dieu, « Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas que tu sois le chef. Merci de me laisser tranquille. » Jean dit que toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Nous n'aimons pas être mis à nu. Nous préférons fuir la lumière plutôt que de voir la réalité en face, même si cela ne fait qu'aggraver notre situation. Peut-être que vous n'avez jamais eu conscience de le faire. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ça ne m'a juste jamais effleuré de penser à Dieu ». Cela n'a jamais fait partie de mon éducation, jamais vraiment été dans mon caractère. Ici, c'était justement le problème que Jésus venait exposer. Le fait d'avoir simplement écarté Dieu, de mener une vie sans aucune référence à lui, de n'accorder aucune place à celui qui devrait avoir la place centrale. C'est comme un enfant qui dit à ses parents, « Désolé, vous ne m'intéressez plus. Notre relation n'a plus d'importance pour moi. » Sur le canevas que vous avez devant vous, vous verrez un schéma. Deux cases. Une case marquée « condamnation », une autre case marquée « vie ». Instinctivement, qui est-ce que vous mettriez dans chacune de ces cases? Je pense qu'instinctivement, on mettrait sans doute la plupart des gens dans la case « vie ». On s'y mettrait soi-même, probablement. Et puis, dans l'autre case, la case de gauche, on mettrait les grands méchants de l'histoire, les Hitler, les Ben Laden, les criminels qu'on trouve dans la rubrique « Faits divers » du journal. Maintenant, regardons le verset 18 de notre passage. Et posons-nous la question, dans quelle case est-ce que les gens commencent? Verset 18. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. D'après Jean, en raison de notre rejet fondamental de notre Créateur, mis en lumière par Jésus, nous sommes tous par défaut dans la case de gauche. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Par défaut, tous sont déjà condamnés. Tous coupables du crime de lèse-majesté à l'égard de celui qui nous a créés, qui nous donne de l'air à respirer et de la nourriture à manger. Cela a peut-être de quoi nous surprendre. Après tout, quand nous regardons autour de nous, la plupart des gens n'ont pas l'air si mauvais que ça. La plupart des gens paraissent au moins relativement gentils, ils payent leurs impôts, ils respectent la loi. Mais placés sous la lumière de Jésus, la réalité est mise au jour. Personne n'a accordé à Dieu la place qu'il mérite dans leur vie. Par défaut, tous sont donc sous sa condamnation. Peut-être que notre premier réflexe est de botter en touche, de relativiser tout ça. Mais c'est justement le réflexe contre lequel Jésus veut nous mettre en garde. Rejeter la vérité parce qu'elle paraît dure à accepter. Et si c'était dans notre intérêt d'accepter le diagnostic que Jésus nous livre ici? Parce que Jésus ne cherche pas simplement à nous accabler. Il nous propose une issue de secours. Et c'est mon deuxième point. Le métier de secouriste de la Croix-Rouge, c'est un métier qui mérite énormément de respect. C'est une évidence. Intervenir dans des conditions hostiles, dans des situations de guerre, sous des bombardements, pour apporter de l'aide aux blessés, cela doit être extrêmement difficile. On a du mal à imaginer pourquoi quelqu'un choisirait de se mettre dans ce genre de situation. Mais imaginons que si, en plus d'intervenir dans des conditions difficiles, il s'agissait pour les secouristes de venir en aide à des gens qui les détestent, qui ne veulent pas de leur aide et qui risquent de réagir de manière agressive. Ce serait presque impensable comme mission. Et pourtant, c'est la mission que Jésus-Christ est venu accomplir. Vous voyez, on aurait pu avoir l'impression tout à l'heure que Jésus est venu simplement pour une mission de condamnation. On a parlé de lui comme une lumière qui révèle notre vrai visage, qui révèle notre rébellion. Et si la vocation de Jésus se limitait à ce rôle, Dieu serait totalement dans son droit. La justice serait servie. L'homme a tourné le dos à son Créateur, s'est réfugié dans l'obscurité, et Jésus met en lumière leur faute. Mais la bonne nouvelle de ce passage, c'est que cette lumière qui révèle notre rébellion sert aussi à nous guider hors du danger, si on est prêt à la suivre. Alors que nous sommes comme enterrés sous les décombres de notre rébellion, Jésus fait briller une lumière qui montre que le secours est là. C'est ce que nous dit le verset 16, sans doute le verset le plus célèbre de la Bible. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ici, le monde que Dieu a tant aimé, c'est un monde qui n'a aucun amour pour lui. On a déjà vu, c'est un monde qui a voulu se débarrasser de lui. Un monde qui lui dit « Je ne veux pas de toi ». On préfère se débrouiller tout seul. Et pourtant, Dieu intervient pour apporter secours. J'ai 2 enfants. Jamais je ne pourrais consciemment les mettre dans une situation où je sais que leur vie est en danger. Je les aime trop. Le lien parental est trop fort. Et tout autre parent dirait la même chose. Mais c'est justement ce que fait Dieu en envoyant Jésus apporter secours à des gens hostiles. Dieu sait à quoi son fils s'expose. Il sait comment il sera traité. Mais il a mis en place une mission de secours et librement son fils se mobilise. Alors quel est ce secours que Jésus apporte? Qu'est-ce qu'il vient d'accomplir exactement? Verset 16 encore. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Souvenons-nous de notre schéma de tout à l'heure, les 2 cases. On était arrivé tout à l'heure à une conclusion sombre. Tout le monde, sans exception, est par défaut dans la case de gauche, la case condamnation. Mais Jésus, le secouriste que Dieu nous envoie, propose une issue de secours. Tout seul, rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous épargner la condamnation. Si nous faisions un effort énorme pour essayer d'être assez bons pour Dieu sans l'aide de Jésus, nous serions toujours dans une démarche de rejet par rapport à son Fils. Mais Jésus fait briller une lumière dans l'obscurité et nous tend la main. Sortez, sortez de sous les décombres, sortez de sous la condamnation. Il suffit simplement de prendre la main qui nous est tendue, d'accepter Jésus comme chef de notre vie pour passer, si vous voulez, de la case condamnation à la case vie. À nous d'accepter son aide. Voilà donc la mesure de l'amour de Dieu pour un monde qui n'a aucun amour pour lui. Peut-être que ça paraît trop facile, il suffit de croire pour éviter la condamnation, trop beau pour être vrai. Mais rejeter le secours pour ce prétexte-là, ce serait comme rejeter l'aide d'un secouriste qui propose de nous tirer des décombres d'un bâtiment effondré parce qu'on n'a pas réussi à s'extraire tout seul. Voici donc la réalité des choses. Nous sommes tous, par défaut, dans une situation de danger mortel, tous condamnés. Et Jésus seul nous propose une issue de secours. On peut fuir la lumière. On peut continuer d'être nos propres chefs en menant une vie sans référence à Dieu. Ou on peut venir à la lumière et accepter la main qui nous est tendue. Ce qui m'amène à mon 3e et dernier point, confirmation. Notre méditation sur ce passage de l'évangile de Jean nous a conduit à une conclusion radicale, une vision du monde aux antipodes de ce que nous croyons naturellement, une perspective qui demande un changement de paradigme de notre part, une analyse qui, si elle est juste, change tout. Voici en quoi consiste la radicalité de cette perspective. Naturellement, nous situons les gens sur une échelle de plus ou moins bons, plus ou moins digne de la faveur de Dieu. Mais ce passage, au contraire, présente tout le monde comme rebelle à Dieu. Et Jésus comme la seule personne qui peut proposer une solution. Est-ce que nous partageons cette vision du monde? C'est vrai que c'est un diagnostic douloureux de la condition humaine. Un diagnostic qui a de quoi nous troubler, qui heurte notre amour propre. Et je pense que c'est pour cela que dans les versets 22 à 36, on fait appel à un témoin pour confirmer l'analyse radicale qui vient d'être présentée, pour montrer que Jean, l'auteur de ce livre, n'a pas juste inventé quelque chose de toute pièce, que ce n'est pas juste un charlatan qui essaie de nous faire peur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un vous volait la vedette. Se faire voler la vedette, c'était l'expérience du groupe de pop The Shadows. The Shadows, c'était un groupe anglais qui a eu une suite de tubes dans les années 50 et 60. Et si ici, personne n'a entendu parler des Shadows, c'est parce que ce groupe a eu la malchance d'être suivi par les Beatles, qui leur a totalement volé la vedette. Et dans les versets 22 à 36, Jésus semble voler la vedette à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jean-Baptiste, pas le même Jean que celui qui a écrit ce livre, un autre. Jean-Baptiste, on l'a déjà rencontré au cours de nos exposés. On a vu que Jean-Baptiste, à l'époque, c'était le nom sur toutes les lèvres. C'était la star de son époque. Celui qui avait créé un buzz parce qu'il appelait les gens à changer de vie et il les baptisait pour symboliser ce changement. Énormément de gens de partout dans le pays allaient vers lui. S'il y avait une personne de qui tous les journaux voulaient faire l'interview exclusive, c'était Jean-Baptiste. Mais dans notre passage, les choses semblent être en train de changer. Les foules qui viennent voir Jean-Baptiste sont un peu moins grandes. Ce n'est plus lui à la une des journaux. Et donc, les disciples de Jean-Baptiste s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ta cote de popularité? Ce n'est plus ce que c'était. Parce que désormais, c'est Jésus qui attire l'attention. Et tout à coup, Jean-Baptiste risque de passer pour the shadows de son époque. Et c'est là que Jean-Baptiste va faire preuve d'une très grande humilité. Il va livrer un témoignage qui va sceller sa mort médiatique et le faire disparaître des écrans radars. C'est le témoignage de quelqu'un qui a tout à perdre s'il reconnaît Jésus pour qui il est et qu'il fait quand même. Si moi, j'affirme que Léo Messi est le plus grand footballeur de tous les temps, mon opinion n'a pas beaucoup de poids, parce que qui suis-je? Mais si Cristiano Ronaldo affirme que Léo Messi est le plus grand footballeur de tous les temps, alors que certains pensent que c'est justement Ronaldo le plus grand, alors cela a vraiment du poids. C'est un peu ce que fait Jean-Baptiste en affirmant Jésus. Et le témoignage qu'il livre confirme l'analyse radicale à laquelle on était arrivé tout à l'heure. Ce témoignage a deux aspects. Premièrement, seul Jésus et nul autre est qualifié pour faire un diagnostic de la condition humaine. Verset 34, lisons-le ensemble. C'est Jean-Baptiste qui parle. Celui qui vient d'en haut, c'est-à-dire Jésus, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, c'est-à-dire Jean-Baptiste, est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Si je me sens malade, je peux demander à n'importe qui de me donner son opinion sur quel est le problème et comment le traiter. C'est le principe derrière les forums sur Internet. Je pourrais demander à chacun d'entre vous de me livrer votre diagnostic. Mais si vous n'êtes pas médecin, il ne faut pas mal le prendre si je choisis d'ignorer votre opinion. Seul un médecin diplômé et assermenté est qualifié pour me faire un diagnostic qui mérite d'être retenu. Et Jean-Baptiste dit que c'est la même chose en ce qui concerne notre situation vis-à-vis de Dieu. Seul Jésus, celui qui est au-dessus de tous, est qualifié pour livrer un diagnostic qui fait autorité. Parce que seul Jésus dit les paroles de Dieu lui-même, comme Jean-Baptiste le dit. Seul Jésus est qualifié pour faire un diagnostic de la condition humaine. Et deuxièmement, seul Jésus et nul autre est qualifié pour proposer une solution. Verset 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Nous arrivons donc au même verdict que tout à l'heure. Jean-Baptiste, le témoin improbable, celui qui avait tout à perdre, confirme notre schéma. Il confirme que les enjeux liés à Jésus sont on ne peut plus importants. Par défaut, tous des rebelles qui méritent la condamnation. Mais Jésus offre une issue de secours. Qu'en pensez-vous? Si vous ne partagez pas cette vision des choses, vous aurez l'occasion maintenant de discuter autour de vos tables de ce qui vous retient. À vous d'en discuter. Si vous acceptez déjà la présentation que Jean nous fait, quel impact est-ce que cela doit avoir? Comment est-ce que ça change notre vision de Jésus, de nous-mêmes, du monde dans lequel nous vivons? À vous la parole.